VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari annonce qu'il va briguer un second mandat.
Je croyais qu'il allait renoncer à ne plus se présenter pour s'inspirer de l'exemple de Nelson Mandela.
En République centrafricaine, l'ONU a été visée par une attaque dans le centre de Bangui. En Somalie, démission du président du Parlement, menacé d'une procédure de destitution. Et à suivre dans nos dossiers du jour, le démarrage de l'opération internationale Flintok depuis Agadez, dans le nord du Niger.
Un mélange entre militaires et civils pour se parler, pour régler certains problèmes, surtout en ce moment où le terroriste essaie de prendre le dessus sur les États africains.
Et au plan musical, la guitare solo est de retour sur le continent. Elle inspire une nouvelle génération d'artistes. Dans la minute éco, on passera par la Côte d'Ivoire où 36 entreprises ont été sanctionnées pour corruption et razzia de médailles pour l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a officiellement annoncé aujourd'hui son intention de briguer un second mandat lors des élections générales prévues en février 2019, mettant un terme à des mois de spéculation. Les précisions avec John Lyndon.
Âgé de 75 ans, Muhammadu Buhari a fait cette annonce lors d'une réunion du comité exécutif national du parti au pouvoir, après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois. De nombreuses spéculations couraient au Nigeria sur sa volonté de briguer ou non un second mandat à cause de son état de santé. L'an dernier, Muhammadu Buhari a passé de longs mois à Londres pour des soins. Malgré tout, de nombreux gouverneurs d'État, la plupart membres de l'APC, le parti au pouvoir, lui ont publiquement apporté soutien. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et ensemble nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria, a déclaré Muhammadu Buhari dans un communiqué de la présidence. Monsieur Buhari, un peu originaire du nord musulman, a effectué fin mars sa première visite officielle à Lagos, poumon économique du pays. Une visite aux accents de pré-campagne électorale. L'APC devrait officiellement désigner son candidat aux primaires du parti dans la seconde partie de l'année 2018.
Par ailleurs, l'armée nigériane affirme avoir sauvé une centaine de femmes et d'enfants enlevés par Boko Haram dans le nord-est du pays. Des soldats ont tué 3 combattants pendant l'opération et capturé 5 autres personnes soupçonnées d'appartenir au groupe djihadiste. Les otages secourus reçoivent actuellement des soins médicaux, selon le porte-parole de l'armée. Au Mali, le ministre de la Défense, Tienan Koulibaly, a annoncé l'ouverture d'une enquête après la polémique autour du meurtre de 14 suspects terroristes qui ont tenté de s'évader à Djoura, dans le centre du pays. Une association Peul a dénoncé dimanche des exécutions sommaires, ce que rejette l'armée malienne. Le ministre malien de la Défense a fait part de sa vive préoccupation et a invité les forces armées à poursuivre leur mission avec professionnalisme et dans le strict respect des droits de l'homme. Au Sénégal, 2 verdicts déjà prononcés au procès des présumés djihadistes. Le procès de 30 présumés djihadistes, dont l'imam Alioune Badaran Dao, tous poursuivis pour apologie du terrorisme et appartenance à un réseau terroriste, s'est rouvert lundi au palais de justice de Dakar. Le franco-sénégalais Ibrahim Ali, jugé pour apologie au terrorisme et acte de terrorisme, a écopé de 15 ans de travaux forcés. Quant au nommé Hassan Camara, poursuivi pour les faits de financement aux terroristes, il a bénéficié d'un acquittement. Le principal accusé dans ce procès, Imam Dao, est emprisonné depuis octobre 2015 en compagnie de ses coinculpés. Toujours au Sénégal, les réfugiés mauritaniens ont réaffirmé leur droit de rentrer au pays. La coordination des organisations de réfugiés mauritaniens a tenu une conférence de presse à Dakar pour commémorer les événements du 9 avril 1989 où plus de 35 000 Mauritaniens avaient fui le Sénégal. Notre statut de réfugié apatride au Sénégal depuis décembre 2016 dépasse tout entendement, a martelé Adjouma Sissoko, le coordonnateur des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal. Au Cameroun, l'ancien vice-président de la Cour d'appel de la région du Sud-Ouest, Mbang Martin, a été enlevé très tôt dimanche matin, portant à 4 le nombre des membres des autorités kidnappées par des présumés sécessionnistes anglophones. Le juge a été enlevé dans la petite localité de Ewele alors qu'il assistait aux funérailles de sa mère. En République centrafricaine, une base des casques bleus de la MINUSCA a été visée par une attaque la nuit dernière à Bangui. Une attaque repoussée après plusieurs minutes d'échanges de tirs. On ne connaît pas encore l'identité des assaillants ou leur motivation. Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique sur place à Bangui.
C'est un quartier général abritant les contingents égyptiens et jordaniens qui a été visé par cette attaque. La base se trouve non loin du domicile du chef de l'État, a été pris d'assaut aux environs de 23h, heure de Bangui. Après plus de trois quarts d'heure d'échange de tirs à l'arme lourde et légère, les assaillants, dont l'identité n'est pas encore connue, ont été repoussés par les casques bleus. L'attaque n'a fait ni de blessés ni de morts dans les rangs des soldats onusiens, a indiqué Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA, mettant en garde contre toute attaque visant les forces de l'ONU. Le gouvernement de son côté n'entend pas faire machine arrière. Le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi s'est adressé en début de soirée à la population.
Face à cette accumulation des faits mettant en péril la sécurité publique, le gouvernement de la République voudrait rassurer la population que tout est mis en œuvre pour assurer sa sécurité de jour comme de nuit dans tous les arrondissements de la capitale et sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les miliciens et criminels répondent de leurs actes. Force reste à la loi.
Rappelons que dans la matinée de ce lundi, une partie des habitants du PK5 a manifesté pour dénoncer l'opération de désarmement menée par la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure dimanche dans ce grand quartier musulman de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 6 gardes du parc national des Virunga ont été tués dans une embuscade dans la province du Nord Kivu. Il est trop tôt pour vous donner l'identité des assaillants, a déclaré le porte-parole du parc, Joël Malembe. Et toujours en République démocratique du Congo, un prêtre catholique, l'abbé Étienne Sengiyumva, a été tué dimanche après avoir dit la messe par des présumés miliciens Maïmaï Nyatura dans l'est du pays, selon le vicaire-général du diocèse de Goma. En Somalie, le président du Parlement a démissionné après des semaines de brouilles avec l'exécutif qui tentait de le faire destituer. Le point avec Idriss Fall.
Mohamed Cheikh Ousmane Diawari est au perchoir du Parlement depuis 2012 et a été réélu en 2017. Il a démissionné avant le début d'une séance pour examiner une procédure de destitution. Cela a mis fin à un long conflit, selon le député Dahir Amin Diesso, qui fait partie des 100 parlementaires qui ont signé à la mi-mars une motion de censure à son encontre. Ces tensions avaient débouché sur un renforcement de la sécurité à Mogadiscio et la fermeture de routes pendant plusieurs jours. M. Diawari avait accusé le gouvernement de tenter d'intimider les parlementaires avec des renforts de policiers jusqu'au tour du Parlement. L'exécutif a toujours démenti. Les causes de ce différend ne sont pas claires. La motion de censure a été signée par la moitié des 275 députés avant d'être abandonnée. M. Diawari a plusieurs fois affirmé que le gouvernement lui avait demandé de démissionner, ce qu'il avait refusé, exigeant que la procédure de destitution aille jusqu'au bout.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, une attaque chimique présumée sur la ville rebelle de Douma, imputée au régime, a provoqué de nouveaux appels à une action internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le spectre d'une riposte militaire a été ravivé après des tirs de missiles aujourd'hui contre une base militaire dans le centre de la Syrie. Damas et son allié russe ont accusé Israël. Hier, Paris et Washington ont menacé le régime de Damas d'une réponse forte après avoir confirmé l'utilisation d'armes chimiques samedi à Douma. Elles ont toutefois démenti être à l'origine des frappes contre la base syrienne. La première chose que nous avons à examiner, c'est pourquoi des armes chimiques sont encore utilisées alors que la Russie s'était portée garante de la suppression de toutes les armes chimiques, a déclaré Jim Mattis, ministre américain de la Défense. Moscou a prévenu qu'il faut élucider ce qui s'est passé à Douma. D'après Washington, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit soutenir une enquête indépendante et exiger que les auteurs de cette attaque chimique rendent des comptes. Selon les casques blancs et l'ONG Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont péri dans l'attaque au gaz toxique à Douma, dernière poche rebelle que Damas cherche à reprendre pour parachever sa reconquête entière de la Ghouta orientale.
Voilà pour le journal. Restez connectés avec Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Niger va lancer fin 2018 les travaux de construction d'un oléoduc pour 1 à 2 milliards de dollars. C'est pour évacuer l'eau brute nigérien au Tchad voisin, puis de l'acheminer jusqu'au port camerounais de Kribi. Initialement prévu en 2013, cet oléoduc est long de plusieurs centaines de kilomètres. Le Niger produit actuellement 20 000 barils par jour et jusqu'ici acheminé par des pipelines jusqu'à Zinder dans le centre-sud du pays pour être raffiné. Un second puits pétrolier est également envisagé au plus tard fin 2018. Son exploitation permettra de produire 90 000 barils supplémentaires par jour. En Côte d'Ivoire, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a affirmé que 36 entreprises ont été sanctionnées pour corruption en 3 ans. Ces entreprises sont exclues de toute passation de marché pendant au moins 2 ans. La commande publique représente un marché de 1 000 milliards de francs CFA et concerne notamment la construction d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles, etc. La Chine juge impossible dans les conditions actuelles des négociations commerciales avec les États-Unis. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a signalé que les responsables américains et chinois n'ont engagé jusqu'à présent aucune négociation sur les différends commerciaux.
Et la musique d'ambiance, c'est bien sûr la page sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Inquiétude pour Mohamed Salah avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions.
Et oui, l'attaquant vedette de Liverpool touché aux adducteurs est toujours incertain pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City. Ce sera demain, annonce ce lundi en conférence de son entraîneur Jürgen Klopp. Mohamed Salah, actuel meilleur buteur de la Première Ligue avec 29 réalisations, était sorti à la 52e minute du match aller en raison d'une douleur à l'aine. L'Égyptien qui n'a pas pris part au derby contre Everton, c'était samedi en championnat, match nul 0-0.
Ensuite, Barcelone sans pression à Rome.
Quasiment qualifié après sa victoire 4-1 au match aller, Barcelone sera demain au Stade Olympique pour valider face à l'AS Rome son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une étape de plus sur la route d'un triplé qui se précise.
Fernando Torres va quitter l'Atlético Madrid.
Et oui, l'attaquant international espagnol, idole des supporters de l'Atlético Madrid, a annoncé qu'il allait quitter le club colchonero cet été à 34 ans en raison, selon lui, d'un temps de jeu insuffisant. Surnommé El Niño, l'avant-centre formé à l'Atlético a débuté sous le maillot rojiblanco à 17 ans en 2001 avant de devenir capitaine. Il a ensuite été transféré à Liverpool, puis à Chelsea et le Milan AC avant de revenir en héros à l'Atlético. C'était en janvier 2015.
Et une razzia de médailles pour l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth.
Oui, le Sud-Africain Akani Sibiné a causé une énorme surprise en battant en finale le favori jamaïcain Johan Blake lors du 100 mètres des Jeux du Commonwealth. C'était à Golden Coast. Le vainqueur a réussi la deuxième meilleure performance de l'année. Et puis en natation, après le 50 mètres et le 200 mètres papillon, le nageur Chad Leclo, le Sud-Africain, a remporté le 100 mètres papillon ce lundi. C'est sa 16e médaille accumulée lors de plusieurs éditions des Jeux du Commonwealth.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Pour la première fois depuis la saison 82-83, Philadelphie a remporté 14 matchs de suite. Après sa victoire hier contre Dallas, 109-97, les Raptors de Toronto ont dominé Orlando, 112-101. Les Celtics se sont inclinés à domicile face à Atlanta, 112-106. À l'ouest, Utah s'est imposé sur le parquet des Lakers, 112-97, et disputera les playoffs pour la deuxième année consécutive. Enfin, le champion en titre Golden State a réagi. Les Warriors, toujours privés de Stephen Curry, blessé au genou, se sont imposés 117-100 à Phoenix.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari veut se présenter pour un second mandat lors des élections générales de février 2019. Il devra d'abord obtenir l'investiture de son parti, l'APC, All Progressive Congress. Populaire dans le Nord, Muhammadu Buhari aura besoin du soutien du Sud-Ouest, dominé par le groupe ethnique Yoruba, pour gagner. Et pour analyse, Eric Manirakiza a joint le professeur de littérature francophone à l'Université publique de Lagos, Tunde Fatunde.
Je croyais qu'il allait renoncer à ne plus se présenter pour s'inspirer de l'exemple de Nelson Mandela. Mais il nous a pris autour, il nous a étonné.
A-t-il tenu ses promesses pendant sa première législature? Que va-t-il vendre aux Nigériens aujourd'hui?
Buhari, pour moi, est un exemple de ce qu'on a fait. Avant qu'il arrive le pardon au contrat, il a promis de transformer de façon profonde la société nigériane. Il a établi trois points principaux. D'abord, l'insécurité grandissante au Nigeria. Et deux, lutter contre la corruption. Et de trois, essayer de trouver de l'emploi à la jeunesse montante. Il n'a rien fait sur ces trois points-là. Mais on se demande pourquoi on n'a pas accepté la pression de son entourage. Parce que si jamais il arrive au Parlement de l'année prochaine, il va certainement reproduire l'échec sans faute de mandat. On va où avec tout ça? Ajouter à l'insécurité, c'est le problème des conflits opposant Marc et Fermier sur l'ensemble du territoire national, surtout dans la région centrale, où les gens se tuent au quotidien depuis plus de 4 mois. C'est-à-dire qu'il a simplement amené le pays vers l'anarchie et le chaos. Parce qu'à 75 ans, il n'est pas capable maintenant de diriger le pays comme il faut. Et ça, c'est l'opinion très répandue au niveau du pays.
Il a aussi une santé fragile.
Absolument, absolument. Ajouter à cela, c'est que toutes mes excuses, je n'ai pas envie d'injurier mon président. Sur le plan intellectuel, il n'est pas capable de diriger un pays au 21e siècle. 10 millions d'enfants au Nigeria n'ont pas accès à l'école, le taux le plus élevé au monde. Plus de 50% de la population adulte sont illettrés. Il ne parvient pas à lire et à écrire.
Mais est-ce que M. Buhari aura un adversaire de taille?
Absolument, bien sûr. Non seulement des adversaires de taille, mais toute une génération. La jeunesse nigériane va monter contre lui. Oui, parce qu'il n'a plus rien à offrir au pays.
Tunde Fatunde, joint à Lagos. L'opération Flintock menée par les États-Unis a démarré aujourd'hui à Agadez dans le nord du Niger. 8 pays sahéliens, dont ceux du G5 Sahel, ainsi que 12 pays occidentaux participent à ces manœuvres militaires pour renforcer les capacités opérationnelles des armées locales. Idriss Fall a joint Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey et spécialiste des questions de sécurité dans la région.
Sont des opérations militaires, vous savez, les États-Unis avec le commandement pour l'Afrique, AFRICOM, qui est basé à Stuttgart, en Allemagne. Chaque année, ils se retrouvent dans un pays pour faire des exercices militaires, entraîner les soldats, faire aussi construire des casernes qui sont vraiment aux normes internationales et aussi faire des opérations civilo-militaires pour aider les populations locales en médicaments en infrastructure.
Cette année, il y a combien de pays qui participent?
Bon, on parle d'une dizaine de pays, du G5 Sahel et d'autres partenaires, des États-Unis, surtout des partenaires européens, qui sont appuyés en grande partie par des forces spéciales américaines qui sont là pour entraîner les soldats dans la lutte surtout contre le terrorisme qui est d'actualité.
Mais apparemment, ça ne se passe pas qu'à Agadez.
Non, pas du tout. Ça se passe un peu partout. Vous savez que les autres opérations qui se sont déroulées à Difa, il y a des noms de cela, aussi au Tchad, un peu partout. Mais aujourd'hui, l'axe de force principal, c'est la zone d'Agadez. Vous savez que c'est dans cette zone-là qu'il y a la plus grande caserne militaire américaine, notamment avec des drones. C'est la plus grande caserne militaire américaine qui se trouve dans cette partie ouest-africaine.
Et par ailleurs, cette opération n'a rien à voir avec la présence militaire américaine au Niger.
Non, cette opération n'a rien à voir. Vous savez que les soldats américains sont présents depuis un bout de temps au Niger, mais cette opération, c'est pour permettre aux militaires de tous les pays de s'organiser, de se parler, de s'entraîner et de trouver vraiment, d'être vraiment formé par des gens acquéris qui viennent des États-Unis et dans la lutte contre le terrorisme. Mais enfin, au-delà de l'aspect militaire, il y a l'aspect civil où ce sont des infrastructures, des points d'eau, notamment des forages qui sont foncés. Et vous avez aussi des écoles qui sont construites. Vous avez également des dispensaires où les médicaments sont distribués gratuitement aux populations là, vraiment pour qu'il y ait un mélange entre militaires et civils pour se parler, pour régler certains problèmes, surtout en ce moment où le terroriste essaie de prendre le dessus sur les États africains.
C'était Moussa Aksar, le directeur de l'événement à Niamey et spécialiste des questions de sécurité.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Europe, on assiste dans presque tous les pays au renforcement des lois contre l'immigration. En France, un ancien banquier syrien veut donner une chance aux migrants qui veulent exprimer leur talent culinaire. Il a ouvert un nouveau restaurant à Paris pour les aider à mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil. Le point avec Marie Benson.
Avant la guerre en Syrie, Nabil Attar était banquier. Cet ancien avocat avait l'habitude de voyager partout en Europe et très souvent en première classe. Mais son dernier voyage, il l'a fait dans un bateau surchargé avec d'autres migrants pendant une traversée périlleuse de la Méditerranée. Aujourd'hui, M. Attar est revenu sur le marché du travail, non pas pour compter de grosses rentrées d'argent, mais pour préparer des repas syriens pour nourrir des Parisiens affamés. Nabil Attar, cuisinier, réfugié syrien.
En ayant tout perdu, j'ai dit à ma femme, pourquoi ne pas aller au bout de nos rêves? Mon rêve a toujours été de devenir cuisinier.
Attar et sa famille vivaient à Orléans. Il avait trouvé son premier travail dans une agence de vente de voitures. L'année passée, il s'est associé à Marine Madrila et son partenaire pour fonder le festival de cuisine des migrants. Marine Mandrila est cofondatrice de ce festival et du restaurant La Résidence.
L'objectif principal de ce festival et du restaurant est d'essayer de changer le regard des gens sur les migrants en mettant en valeur leurs talents, leurs compétences et leur héritage culinaire pour montrer ce qu'ils peuvent apporter à nos sociétés.
Le restaurant engage tous les deux mois un différent migrant cuisinier, aidé par des chefs cuisiniers français. Stéphane Gigot, patron du restaurant parisien La Mijan.
Aussitôt qu'on parle de social, réfugiés, réinsertion, on pense bienveillance et on tire vers le bas parce qu'il ne faut pas trop bousculer tout le monde. Et nous, on a pris le parti justement avec Marine et Louis, Réfugiés Food Festival, de pas aller dans cette veine-là. C'est pas parce que tu es dans le social et tu es dans la réinsertion des gens que tu dois tirer vers le bas. Au contraire, tu dois être exigeant à un point où tu dois pousser la gastronomie qui veut faire au summum de la gastronomie.
Keshar Sharma est originaire de l'Inde. Il a cuisiné au Moyen-Orient et en Afrique avant d'atterrir en France comme réfugié. Il aide dans la cuisine du restaurant La Résidence.
Mon pays me manque, mais je suis heureux ici. Jour après jour, c'est ici que je construis ma nouvelle vie.
Day by day, it's new life here.
Le projet doit durer 2 ans et jusqu'ici, le restaurant ne désemplit pas. Didier Fèvre, architecte, est un client régulier.
Les saveurs sont très différentes. Elles se marient parfaitement avec la cuisine française.
Bientôt, un nouveau chef fera son entrée au restaurant La Résidence. Alors, le houmous du Moyen-Orient laissera place à une autre cuisine. Attar, lui, est déjà sur un nouveau projet, car il compte ouvrir un restaurant syrien à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et sur le continent africain, la nouvelle génération d'artistes hip-hop ou les stars de la pop nigériane s'inspire des anciennes sonorités de la musique congolaise. La guitare solo est de retour, associée au rythme dansant. Cela donne un genre en vogue chez les jeunes. À Kinshasa, la nouvelle génération s'identifie à ce genre nouveau qui rappelle les anciennes gloires de la rumba congolaise. Un reportage de Patrick Abega avec le récit de John Lyndon.
Vous avez certainement déjà écouté ce son. Celui-ci peut-être. Dans le jargon congolais, cela s'appelle du sebène, la signature du rythme congolais, une marque qui s'est répandue partout sur le continent africain.
La musique congolaise a été exportée par des commerçants grecs qui en fait avaient ouvert des maisons d'édition ici à Kinshasa. Alors, comme ils avaient plusieurs représentations à travers l'Afrique, déjà vers les années 60, la musique congolaise était vendue partout ailleurs, presque dans toute l'Afrique.
Maintenant, c'est au tour de la nouvelle génération d'importer ces anciennes sonorités, surtout le son de la guitare typique de la rumba congolaise. Pour cette génération, c'est une identité, une marque. Bref, la guitare solo ravive la fierté congolaise.
Dans mon rap, je piquais deux éléments à la musique Ndombolo. Il y a la guitare, mais il y a également un atalaku. Moi, j'ai grandi avec la musique des Wenge. Donc, le sebène, c'est dans le sang.
Des autres pays, que nous respectons aussi, se permettent de s'inspirer de la musique congolaise. Et quand on parle de musique congolaise, on parle de son identité qui est le sebène. On ne peut pas parler de sebène sans la guitare solo. Et la guitare solo est la signature même de la musique congolaise.
Les artistes nigérians sont les plus inspirés. Et quand les DJ mixent, ça cartonne et c'est dansant. Entre la rumba congolaise et la pop made in Naija, le pont est déjà jeté. Robert Kabangangoy.
Aujourd'hui, nous vivons avec la musique nigérienne. Une musique qui aujourd'hui s'impose comme une musique africaine la mieux placée ou la mieux vendue actuellement. Mais quand vous écoutez ça, déjà avec tout ce que vous entendez comme guitare, ça c'est vraiment du congolais.
Certes, la musique venue du Nigeria fait aujourd'hui danser l'Afrique, mais à travers ses accords de guitare, la musique congolaise reste éternelle.
Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma à la mise en onde, Wojtek Zorniak à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actu. Restez à l'écoute, excellente suite de programme. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.